Carlos Tabe.
Morning edition.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, c'est en Afrique du Sud que je vous emmène parce que les violences xénophobes de ces derniers mois, dernières semaines, sont en train de miner la nation arc-en-ciel et compromettre aussi peut-être le rôle qu'elle entend jouer sur le continent. Le bruit du monde est en Autriche, qui célèbre les 70 ans du film Le Troisième Homme avec Orson Welles. Et puis Amélie Perrier nous parlera notamment d'Abkhazie, c'est à côté de la Géorgie. 18h50, Passons au genre dans le monde et Julia Foyce avec Danse avec les stars gays. En Grande-Bretagne, il y a un kit Me Too qui est une vraie fausse bonne idée. Ça se passe aux États-Unis. 18h55, Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four qui voit l'Algérie en miroir inversé de la Tunisie. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Thierry Vircoulon.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur associé au Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI. Le président sud-africain a été hué récemment aux obsèques de Mugabe. Il a présenté ses excuses pour les violences xénophobes. On parle d'une dizaine de morts et aussi des blessés. Il a aussi annulé son voyage à l'Assemblée générale des Nations unies pour les mêmes raisons. Est-ce que ça veut dire que l'heure est vraiment grave et qu'il y a une vraie prise de conscience d'un dysfonctionnement interne à la société sud-africaine ?
Il y a une mise en cause grave des autorités sud-africaines par plusieurs gouvernements africains et elles ne peuvent plus maintenant mener la stratégie qu'elles avaient avant, qui était de faire la politique de l'autruche par rapport à la xénophobie qu'il y a en Afrique du Sud. Et le grand changement de ce qui s'est passé en septembre par rapport aux autres vagues de xénophobie, puisqu'il y a eu déjà des vagues
très grosses en 2008,
2015, 2017, c'est que cette fois-ci c'est devenu un problème diplomatique.
Alors on va y venir, mais justement pour essayer de comprendre, vous l'avez dit, il y a eu des vagues xénophobes précédentes, il y a eu celle de 2008 qui a été particulièrement sanglante, celle de 2015 aussi. Est-ce que celle-ci est différente cependant, ou pas du tout ? Les ressorts restent rigoureusement les mêmes ?
Oui, il y a le discours xénophobe en Afrique du Sud est très classique. Il consiste à dire que les étrangers sont source de chômage et d'insécurité. Et ça n'a pas changé. Cette fois-ci, on voit bien le lien avec la situation socio-économique parce que il y a dans les déclencheurs de ce qui s'est passé au début septembre une grève des transporteurs routiers. Qui demandait, des syndicats des transporteurs routiers demandait à ce qu'on n'emploie plus de chauffeurs étrangers. Et donc on voit bien que c'est sur les questions d'emploi et de marché du travail que se cristallise cette xénophobie et aussi évidemment des questions de criminalité.
Mais en nombre, ça veut dire quoi ? Parce que moi j'ai vu un chiffre, ça a l'air compliqué de trouver des chiffres fiables parce qu'effectivement on parle aussi d'immigration illégale parfois, mais tout ça tourne autour de 3,7 millions pour une population, autour de 56 millions en termes de pourcentage. Au fond, est-ce que c'est vraiment beaucoup ? Ça semble pas énorme non plus.
Non, c'est pas énorme, mais ces chiffres sont probablement sous-évalués parce qu'il y a une immigration clandestine importante. Et d'autre part, il faut les mettre en parallèle avec un taux de chômage de 28%.
Et 50% pour les jeunes noirs, ai-je lu.
Voilà, très fort pour la jeunesse et aussi un taux de criminalité qui met l'Afrique du Sud dans les 4 ou 5 pays les plus meurtriers du monde.
Alors on dit aussi, vous l'avez évoqué, on dit quoi ? On dit impuissance du gouvernement ou on dit non-action du gouvernement, celui-là comme ceux d'avant au fond ?
Non, on dit plutôt complaisance en fait, parce que, et là aussi les autorités sud-africaines ont été un peu prises dans la main dans le sac. Ce discours xénophobe a été aussi alimenté d'une certaine manière par des autorités publiques.
Le maire de Johannesburg notamment.
Le maire de Johannesburg, le ministre de la police, le ministre de la santé, qui disait qu'il y avait trop d'étrangers dans le système de santé sud-africain. Donc pendant toutes ces dernières années, il y a eu des discours anti-étrangers de la part d'autorités publiques. Et je pense que c'est ce qui a fini par être vu par les autres gouvernements africains et c'est ce qui leur pose le plus problème. Et c'est pour ça qu'il y a cette mise en cause maintenant diplomatique de l'Afrique du Sud par plusieurs pays africains.
Alors, plusieurs pays africains, on en parle aussi à l'Union africaine, c'est vraiment pas bonne presse. Puis il y a le Nigeria surtout qui a fait rapatrier un certain nombre d'hommes et de femmes. Il y a eu le fameux opérateur qui s'appelle MTN, qui est un opérateur sud-africain qui a fermé un certain nombre de ses agences, notamment par sécurité. On parle aussi de la guerre des deux géants de l'Afrique, au fond, quand on parle de l'Afrique du Sud et du Nigeria, on parle à celui qui a la place de la locomotive du continent, non ?
Oui, enfin, la locomotive, elle tire pas grand-chose depuis un bon bout de temps.
Locomotive sud-africaine, vous voulez dire ?
Les deux, ouais, le Nigeria okay. et l'Afrique du Sud sont des pays qui ont énormément de problèmes et dont les économies sont loin d'être performantes, mais qui sont pris depuis la fin du XXe siècle dans une sorte de rivalité plus psychologique qu'économique. Parce que voilà, on les a décrits comme étant les deux économies majeures du continent, etc. La vérité, c'est que, comme je disais, ce sont des économies qui ne tirent pas grand-chose. L'économie sud-africaine est dans une crise extrêmement profonde. L'économie nigériane a aussi beaucoup de problèmes et donc ce sont loin d'être les moteurs du continent. Mais voilà, ils ont cette relation très tendue et donc dès qu'il y a un sujet de contentieux, immédiatement les choses se tendent entre Abuja et Pretoria. Et donc le président Ramaphosa a décidé d'envoyer une délégation d'émissaires de haut niveau faire un peu le tour de l'Afrique pour essayer de limiter les dégâts.
Et demander pardon, c'est quand même un drôle de geste, non ? Enfin, un sacré geste, c'est dans ce sens-là que je disais drôle de geste.
Oui, c'est-à-dire que la campagne a été tellement... La réaction africaine sur les réseaux sociaux et diplomatiques aussi a été tellement forte qu'il n'y avait plus tellement d'autres solutions. Et c'est vrai que ça fait beaucoup d'années que les autorités sud-africaines ne font pas grand-chose, sauf essayer de rapatrier les migrants clandestins contre la xénophobie. Et par conséquent, il y a vraiment eu des réactions très fortes. À la fois des appels au boycott, comme vous le disiez, d'entreprises sud-africaines, donc heurter les intérêts économiques sud-africains, et puis une session au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ce qui est assez inhabituel, sur ce sujet. Donc ils n'avaient pas tellement d'autres solutions que de faire leur mea culpa et de dire qu'ils vont lutter contre la xénophobie.
Mais du coup, vont-ils le faire ? Est-ce que tout cela est sincère ? Est-ce qu'on réalise, quand on est Ramaphosa en ce moment, qu'il y a un vrai souci ? Ou est-ce qu'on est là, effectivement, dans une posture diplomatique parce qu'il faut éteindre l'incendie ?
Ça va être extrêmement difficile de lutter contre la xénophobie qui est un vrai sentiment populaire en Afrique du Sud. Mais d'une part, il s'est engagé à ce qu'il y ait des poursuites contre les gens qui ont été coupables de ces actes. Et après, sur le fond, c'est la question de l'immigration économique qu'il faut traiter. Et évidemment, celle-là, c'est une question qui doit être traitée par pas seulement Pretoria, mais aussi les autres pays africains.
Et une immigration économique qui principalement vient d'où ? Du Mozambique,
qui vient
du Zimbabwe,
des pays avoisinants,
mais pas du Nigeria
c'est vrai que les plus grands contingents d'immigrés très logiquement viennent des pays avoisinants, mais vous avez aussi des communautés nigérianes, congolaises, somaliennes, éthiopiennes, tanzaniennes aussi, et même des gens qui viennent du sous-continent indien comme le Bangladesh et le Pakistan. Maintenant, vous avez une communauté pakistanaise assez importante en Afrique du Sud.
On va faire un petit aller-retour en Afrique du Sud. Je voudrais juste une autre question avant qu'on y aille. Vous avez évoqué effectivement le moment où on en a discuté, notamment autour de l'Union africaine. L'Afrique du Sud va présider l'Union africaine à partir du mois de janvier prochain. Est-ce que ça risque de poser un problème ? Est-ce que cette présidence pourrait être remise en cause s'il ne se passe pas de choses d'ici là ? Est-ce que c'est à ce point-là ou pas, avec les voisins ?
Je pense que c'est pour ça que Cyril Ramaphosa a présenté des excuses et a envoyé une délégation faire le tour un peu de l'Afrique. C'est pour éviter en effet qu'on mette des bâtons dans les roues de cette présidence, parce qu'en effet le timing de ces événements était particulièrement nocif.
Bonjour Lise Le Vaudran.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre depuis Johannesburg, où vous êtes. Vous êtes chercheuse à l'Institut des études de sécurité en Afrique du Sud. Moi, je voudrais bien savoir, vous qui êtes sur place, est-ce qu'il y a une réponse de la société civile, Lise Le Vaudran ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience de cette société civile qui dit il faut arrêter ? Ou est-ce que tous ces meurtres, finalement, passent quasiment sous les radars ?
Non, je pense pas que ça passe sous les radars. D'ailleurs, différentes organisations, des think tanks, des organisations de société civile, on a fait une réunion la semaine dernière. Il y avait même des manifestations pendant le week-end pour dire « nous ne sommes pas tous xénophobes, stop xénophobie, etc. » Donc, il y a une, je pense que c'est plus ou moins une élite, si je peux dire, c'est pas des manifestations vraiment là où se passe le plus grand des violences, mais ça va avoir un impact très sérieusement sur nos relations, comme vous avez discuté avec Thierry Virgulon, sur nos relations économiques et diplomatiques sur le continent.
Et est-ce que vous avez le sentiment que ça va avoir une vraie conséquence, y compris économique ou pas ?
Oui, la conséquence économique pour l'instant, c'est nos relations avec le reste de l'Afrique. Mmh. Vous savez que l'Afrique du Sud est un des champions de le ZLECA, la zone de libre-échange continentale. L'Afrique du Sud étant un des pays les plus industrialisés avec une économie très sophistiquée, nous avons beaucoup d'investissements, surtout dans la zone. Et nous avons vu ces quelques jours les entreprises en Zambie, au Nigeria, pas vraiment ailleurs, au Mozambique, parce que dans toute l'Afrique australe, l'Afrique du Sud inonde tous ces pays-là avec ses produits de consommation. Mais nous avons vu certaines manifestations, des appels au boycott, par exemple les MTN au Nigeria, etc.
Télécom.
Voilà, les télécoms. Donc l'impact économique, c'est peut-être à long terme, pendant que nous sommes en train de négocier les détails de ce zone de libre-échange qui va entrer en vigueur seulement en 2020, fin de mois de juin. Donc, ça, c'est très important que nous avons une crédibilité quand nous allons vers ces négociations et bien sûr présider l'Union africaine. C'est la première fois depuis 18 ans que l'Afrique du Sud préside l'organisation. Nous avons beaucoup de choses à offrir, si je peux dire, quand il s'agit de médiation, maintien de la paix, etc. Mais là, notre crédibilité, notre image sur le continent vraiment a pris un coup, et Ramaphosa l'a admis, oui.
Liselot Vaudran, on a parlé des conséquences diplomatiques, vous nous avez évoqué effectivement l'Union africaine, il y avait aussi au moment de l'élection de Ramaphosa l'idée d'un retour à une autre Afrique du Sud, une Afrique du Sud qui ressemblait plus à l'Afrique du Sud post-Mandela, quelque chose de plus ouvert et de plus altruiste. Est-ce que ça veut dire que ces événements-là nous ramènent au fond à ce que ce pays connaît depuis des années et que les promesses qui ont été faites au moment de la dernière élection au printemps dernier n'existent plus, n'ont plus aucun effet?
Non, je pense pas. Les promesses étaient surtout aussi sur la lutte contre la corruption, une ouverture, comment dirais-je, plus à une autre branche de l'ANC qui sont moins impliqués dans les affaires de corruption. Donc, le nouveau gouvernement de Ramaphosa incarne quelque part ces tentatives. Nous avons tous les jours, tous les Sud-Africains regardent en direct à la télévision des procès. Il y a un juge qui enquête sur les questions de corruption. Donc, je pense pas que ce que Ramaphosa a promis pour le pays, c'est-à-dire l'antithèse quelque part de Jacob Zuma, ça continue. Mais c'est vrai que la violence et la criminalité, la xénophobie, mais aussi on avait des incidents de viol, de violence faites aux femmes qui étaient assez graves ces derniers temps.
De féminicide, vous avez un taux de féminicide qui est absolument délirant, oui.
Voilà, exactement. Donc ça, le moral, je peux dire, du pays entier, c'est nous avons pratiquement chaque jour une dizaine de manifestations de masse dans différents endroits du pays sur différents sujets. Souvent, la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle service delivery protest, c'est contre le gouvernement parce que les communautés trouvent qu'il n'y a pas de l'eau, d'assainissement, de la lutte contre la criminalité. Donc, une pauvreté, une misère, une frustration qui amène à ce genre de manifestations publiques et ça dégénérait contre les étrangers. Et c'est ça qui a causé ce dernier temps ces violences.
Merci beaucoup, merci Lise Le Vaudran. Merci de votre petit passage dans Un jour dans le monde. Thierry Vircoulon, je vous repose un peu la même question. Est-ce que en interne et politiquement, tout cela est très négatif pour le président sud-africain ou, au fond, comme nous l'expliquait Lise Le Vaudran, j'ai presque envie de dire, les Sud-Africains ont d'autres préoccupations aussi.
Non, je pense que c'est très négatif parce qu'en fait, la xénophobie, c'est le baromètre de l'état socio-économique de l'Afrique du Sud. Et Jacob Zuma, donc, avait été... une promesse, c'était évidemment de résoudre cette crise économique. Or, on voit bien qu'il n'y arrive pas. Et cette nouvelle vague de xénophobie est le signe que la situation socio-économique est vraiment très mauvaise et que ça ne redémarre pas en Afrique du Sud.
Il est trop tôt, mais est-ce qu'il est en train de perdre un pari, Ramaphosa, en ce moment? Il est tôt, il a été élu en mai dernier, si je ne m'abuse, donc ça fait pas beaucoup de mois, tout ça,
mais
enfin...
Oui, mais je pense que en Afrique du Sud, on voit ce qu'on voit dans beaucoup de pays, c'est que les politiques n'ont plus la main sur l'économie. C'est l'économie qui les domine et pas l'inverse. Donc, il y a peu de chances pour que Ramaphosa réussisse à solutionner la crise sud-africaine.
En tout cas, il va essayer visiblement de solutionner ses grands problèmes diplomatiques avec ses pays voisins. Merci beaucoup Thierry Vircoulon, merci de votre passage dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès sur France Inter.
Le 18-20, la suite, c'est Le Bruit du Monde dans Vienne qui redécouvre le film Le Troisième Homme avec Orson Welles. Le Bruit du Monde sous les radars, c'est aussi Amélie Perrier avec une Greta Thunberg qui peut en cacher une autre en gros.
Oui, en Thaïlande, elle s'appelle Lily et elle a 12 ans, elle ramasse tous les plastiques.
Passons genre, dans le monde, Julia Foyce. Oui. Julia, il y a de l'arc-en-ciel dans Danse avec les stars
version Grande-Bretagne. C'est exactement ça, peut-être. Peut-être que oui, on ne sait pas, on verra.
Et on verra ça ensemble, le monde à l'envers. Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonjour,
Jean-Marc,
monsieur, dame.
Avec Algérie et Tunisie qui nous envoient un message différent.
Alors, élection piège à con, ça s'applique très bien à l'Algérie.
Allez, à tout de suite, tout le monde. Le tour de la planète n'est pas fini, il passe par l'Australie, figurez-vous. C.W. Stunking, Brave Son of America.
His name will always be recorded in history. His name would always be recorded in history. It gives me inspiration to sing his heroic stand in the Philippines. No man can be braver than General MacArthur, the son of America. Traditional warrior at his side, he gave the Japanese a first surprise. Oh, when they called on him to surrender, I am an American was his answer. And in the name of democracy, I will die for freedom and liberty. They don't come no braver than General MacArthur, the son of America. In past history, go think George Washington and General Lee, even Hale and Patrick Henry, Abe Lincoln emancipating slavery. But we'll read of MacArthur when he's gone, for he's a genius if one was ever born. There don't come no braver than General MacArthur, the son of America. Characteristic song from the book of editions that lasts so long. This vocabulary that is lisping me is owing to my high class propensity.
I'm not versed in psychology. I'm a man who can sing intelligently. I said I come no braver than General MacArthur, the son of America. With the star that's bright flame at his side, for his flag is in the sky.
Allez, tout le monde en marche. Le bruit du monde résonne à Vienne ce soir. Pas la Vienne qu'on connaît aujourd'hui, l'autre Vienne. Celle du film Le Troisième Homme avec Orson Welles, Palme d'Or à Cannes en 1949, signé Carol Reid. Le Troisième Homme a 70 ans cette année. Le film a été en partie tourné juste après la guerre. Il montre une ville impériale comme on l'a rarement vue, dévastée, occupée, mais pas seulement. Et c'est dans les pas du film que vous nous emmenez, Isorias.
Le Troisième Homme est une promenade haletante dans la Vienne d'après-guerre, en ruine et occupée par les soviétiques, britanniques, américains et français. On suit la trace d'Harry Lime, truand cynique, campé par Orson Welles, que l'on croit mort mais qui réapparaît en trafiquant de pénicilline. La capitale autrichienne n'a pas été choisie au hasard par Graham Greene, auteur du roman et du scénario, comme l'explique Kerstin Timmerman, une passionnée qui organise des visites de Vienne sur les pas du Troisième Homme.
Avant la Seconde Guerre mondiale, Graham Greene était membre des services secrets britanniques. À Vienne, il entendit parler des personnes déplacées, ces gens qui avaient perdu leurs papiers et qui étaient coincés dans la ville. Il pensa alors que Vienne était l'endroit parfait pour disparaître puis réapparaître avec une fausse carte d'identité, ce que fait Harry Lime. C'est donc ainsi qu'il trouva l'intrigue. L'équipe du film a même été utilisée pour faire venir des espions à Vienne. On estime qu'entre un quart et un tiers de l'équipe étaient en réalité des espions.
Victims, be melodramatic. What's down there? Would you really feel any pity if one of those dots stopped moving forever?
Depuis plusieurs années, elle et sa famille recherchent minutieusement chaque rue, chaque immeuble ou monument aperçu dans le film pour les faire découvrir aux curieux et cinéphiles. La Schreifogelgasse, par exemple, là où Holly Martins aperçoit brièvement son ami Harry Lime qu'il croyait mort.
Harry!
Soixante-dix ans après, la ruelle n'a pas changé. Une joueuse de sitar y reprend la célèbre mélodie composée par Anton Karas, qui le rendit célèbre dans le monde entier.
Il jouait dans une taverne viennoise, un Euriger. L'équipe du film vint y dîner un jour et trouva que cette musique sonnait très viennoise. Ils se dirent alors, enlevons le violon derrière et gardons seulement cette guitare allongée. Il s'agissait évidemment d'une sitar, un instrument très autrichien. Plus tard, il joua la musique à la sitar en regardant le film, alors que le réalisateur était assis à côté de lui et lui criait plus vite, plus lentement, pour que cela aille parfaitement avec la scène.
Cette musique a été reprise plus de 400 fois, notamment par les Beatles, comme on le découvre au musée du Troisième Homme à Vienne. Pour les 70 ans de la sortie du film, une exposition rassemble des centaines d'objets précieux, affiches, scripts originaux, mais aussi un projecteur d'époque qui permet de découvrir un extrait du film tel que pouvaient le voir les spectateurs en 1949. À l'origine de ce musée, Gerhard Strassschantner, fin connaisseur qui distille des anecdotes savoureuses, comme celle concernant Trevor Howard, qui joue un officier britannique dans le film. Il fut arrêté un jour dans un bar de Vienne, sous, dans son costume, car on le prit pour un véritable officier qui ne se comportait pas comme il fallait.
Il était retenu dans une sorte de prison, ce qui empêchait le tournage du film. Et ça a été très difficile pour l'équipe de l'en faire sortir. Trevor Howard aimait beaucoup l'alcool, ce qui explique qu'il faisait ce genre de choses.
Certaines pièces nous plongent dans l'histoire de l'Autriche après la Seconde Guerre mondiale, notamment une série de photographies rares montrant la vie quotidienne et les difficultés des Viennois au sortir de la guerre. Le musée attire pourtant peu d'Autrichiens pour qui cette période reste difficile, selon Gerhard Strassschwantner.
On savait à Vienne que des millions de personnes dans le monde avaient vu ce film, et les Viennois n'y croyaient pas. Pour eux, les Américains et les Britanniques avaient fait un mauvais film sur la ville. Un film qui montrait les Viennois prêts à fermer les yeux pour de l'argent et qui fouillaient dans les poubelles pour manger. Cela se passait après la guerre. Les gens ne voulaient pas voir ce genre de choses. Même aujourd'hui, nous avons peu de visiteurs locaux. L'année dernière, pour chaque millier de visiteurs, 24 seulement venaient de Vienne. Cela en dit plus que beaucoup de livres.
Au musée est également conservée une plaque d'égout, clin d'œil à la scène mythique durant laquelle Harry Lime est poursuivi dans les égouts de Vienne, que l'on peut visiter encore aujourd'hui. C'est là qu'il meurt finalement, abattu par son ami.
Et en fait, je ne l'ai jamais vu ce film, voilà, c'est Mardi Confession, je ne l'ai pas vu. Ben, vite, vite, on va rentrer. Isorias pour Un Jour dans le Monde, merci beaucoup et à très vite. Le bruit du monde, quand il vous échappe et passe sous les radars, ça donne ça.
Please welcome Greta Thunberg.
Ben voilà, qui est cette personne, Amélie Perrier, forcément, Greta Thunberg, qui monopolise le débat sur l'environnement, ça c'est vrai, on la voit beaucoup, mais rassurez-vous, il y a d'autres jeunes filles qui savent aussi prendre le relais.
Et pas sûr qu'elle plaise davantage aux détracteurs de la jeune Suédoise. Je vous présente aujourd'hui Lily. Elle a 12 ans, elle vit en Thaïlande et préfère sécher l'école, grimper sur son paddle pour ramasser les déchets dans un canal de Bangkok. C'est le combat de Lily, la chasse au plastique. La Thaïlande est le 6e plus gros contributeur mondial à la pollution des océans. Elle le revendique, Greta Thunberg a été un modèle pour elle.
Greta est très importante pour moi parce qu'elle symbolise. Elle dit que les enfants peuvent faire la différence. Elle veut que tout le monde fasse quelque chose et elle arrive à rassembler tellement de gens.
Voilà, Lily Americano-Thai, ça explique son anglais courant à 12 ans. Elle a déjà remporté une victoire importante. Elle vient de convaincre un grand distributeur de Bangkok de ne plus donner de sacs plastiques à usage unique dans ses supermarchés une fois par semaine. Et dans la foulée, bien d'autres groupes se sont engagés à cesser d'en distribuer dans les mois à venir. Le sac plastique est omniprésent en Thaïlande. Il sert à emballer les repas servis dans les cantines de rue. C'est une habitude nationale. De nombreux Thaïlandais mangent dehors. En moyenne, un Thaïlandais utilise 8 sacs par jour, soit près de 3000 par an, selon le gouvernement. Par ailleurs, la pétrochimie qui fabrique ces sacs plastiques est un secteur puissant qui fournit de nombreux emplois dans le royaume. Vendredi, le 20 septembre, quand Greta Thunberg manifestera à New York, Lily, elle marchera dans Bangkok, persuadée que la lutte doit se mener aussi en Asie du Sud-Est.
Allez, big up pour Lily. Donc, c'est la presse allemande qui s'en fait l'écho, un jour très sombre pour les fous de mode.
Le créateur de la marque Vêtements s'en va. Il s'appelle Demna Gvasalia. Il est d'origine géorgienne. Il a fui son pays dans les années 90 après la chute de l'URSS au moment du nettoyage ethnique par les séparatistes abkhazes soutenus par la Russie. Il a ensuite grandi à Düsseldorf. Quand il a créé sa marque avec son frère en 2014, il a mis un grand coup de pied dans le monde de la mode. À 38 ans, il laisse Vêtements, que vous connaissez bien, Fabienne.
Mais bien sûr, je suis habillée en Vêtements d'ailleurs, là.
Il laisse Vêtements à son frère. Lui, il va rester directeur artistique de Balenciaga. Vêtements, c'est avant tout une approche philosophique, voire sociologique de la mode. Oui, oui, oui. Vêtements, c'est le détournement permanent, le grunge post-soviétique. Die Welt écrit, grâce à Vêtements, il était devenu subitement chic de se montrer dans des silhouettes informes et de se faire voir avec un logo en grosses lettres sur le vêtement. L'un des plus connus chez Vêtements, c'est le t-shirt DHL, dont on a du mal à voir la différence avec ce que portent les employés du transporteur de colis, à part le prix. Le hoodie, vous savez, en bon français, on dit le sweat à capuche. Ouais. Chez Vêtements, se vend autour de 800 euros, mais quand même. La paire de chaussettes de tennis blanche imprimées Vêtements à 90 euros, vous les portez, Fabienne, à l'intérieur de vos escarpins pointus, ces chaussettes de tennis.
Moi, je fais ça très souvent.
Quant au défilé, ils sont tout aussi effrayants dans des squats, des boîtes glauques, au McDonald's récemment. Musique à fond, lumière angoissante et des mannequins pas du tout souriants.
Je m'appelle Maud Escudier, j'ai 28 ans et je défile pour Vêtements depuis le début. Je vais vous montrer comment on marche pour Vêtements.
Vous
Donc c'est rapide, un peu tough et un peu dark.
Un peu voilà. Tough, un peu dark, c'est wow. Un peu dur, un peu sombre, un peu comme vous aussi Fabienne, quand la mode illustre son époque.
Allez, un autre phénomène de notre époque, ce sont les écrans allumés des téléphones qui ont remplacé les briquets pendant les concerts, mais peut-être qu'il va falloir trouver autre chose alors.
Mais oui, une grande salle à Turin, en Italie, va tester pour la première fois dans le pays un concert sans téléphone portable. Ce sera le 7 novembre à l'Hiroshima Mon Amour, là c'est le nom de la salle turinoise. Les spectateurs seront invités à laisser leur smartphone à l'entrée. Pas de vidéo, pas de photo, pas de partage sur les réseaux sociaux. Et si je vous passe un concert de Madonna, Fabienne, c'est que la superstar interdit les téléphones lors de sa tournée Madame X Tour. Elle a choisi des petites salles, hein, comme le Grand Rex, le Grand Rex à Paris, et ne veut plus être séparée de son public par ses murailles d'écran. Elle n'est pas la seule célébrité à dicter ce choix. Bob Dylan aussi, en France l'humoriste Florence Foresti. Le directeur de la salle à Turin, lui, dit vouloir proposer quelque chose de plus vrai, de plus direct, de plus intime. Alors ce sera peut-être le retour du briquet qui brûle les doigts.
Que nous avons connu, Jean-Marc
absolument.
Et moi, le briquet
mais
qui brûle les
tous.
Doigts. Mais vous savez comment ça marche? Parce que moi j'ai vu faire chez Florence Foresti, on vous donne un espèce de petit sac qui se bloque
une
automatiquement, une espèce de pochette. Comme ça vous gardez votre portable avec vous, mais il est dans une espèce de pochette et vous pouvez le désactiver même en cas d'urgence. C'est hyper sophistiqué. Amélie, vous reviendrez demain ?
Oui, peut-être.
Eh bien, tant mieux.
À demain.
Alani, la chanson s'appelle Papa et c'est dans la playlist d'Inter. C'est le titre de la chanson Alani sur France Inter. Mesdames, messieurs et autres uniques en votre genre, voici Julia Foyce.
France Inter. Un jour dans le monde.
Julia Foyce qui, chaque semaine, nous donne des nouvelles des femmes dans le monde et de la planète LGBT. On commence avec un petit test auditif, peut-être.
Vous l'avez reconnu ? Générique télé ?
Ouais.
Alors attendez, je vous aide. Hein. Des paillettes, des justes corps taillants, véchus que nombril, des pectoraux saillants, des tablettes abdominales comme Jean-Marc Four, allez. Et pour mesdames, des talons de douce, des froufrous, des volants, c'est Danse avec les stars, évidemment. Un carton sur TF1 depuis 9 ans, l'émission grâce à qui le Madison devient rock'n'roll, où le cha-cha-cha est punk et où le jive
existe. Oui, j'ai beau toucher un tout petit peu ma bille hein, sur la piste de danse. Je ne connaissais pas le jive, mais là n'est pas la question. Danse avec les stars revient ce week-end. Inoxydable, inoxydée avec cette touche de provoque qui n'appartient qu'à elle, cette façon qu'elle a de résister seule au vent comme Zomaré, aux pressions en tout genre et aux lobbies féministo-LGBT. Dehors, vous faites ce que vous voulez, mais ici, les hommes sont des hommes et ils dansent avec des femmes, ok? Mieux, l'homme conduit, la femme se laisse guider, les vaches seront bien gardées, les sexes bien rangés et les genres bien genrés. Quant à savoir si cette année, on aura enfin un couple de danseurs gays, la réponse est non, évidemment. La liste des candidats vient d'être dévoilée. A priori, c'est pas pour tout de suite. Hein. C'est pourtant une demande des fans dans chaque pays où le concept est décliné. Chez nous, la question s'était posée l'an dernier. La ménagère n'est pas prête, aurait-on répliqué dans les bureaux de TF1. Et quand on peut faire 10 millions de recettes publicitaires, la ménagère, eh ben on la brosse dans le sens du poil, hein, si je puis me permettre. Alors, des hommes qui embrassent, des hommes et des femmes qui s'embrassent, même pas en rythme, vous n'y pensez pas. Aux États-Unis non plus, ça n'existe pas. ABC l'a dit, c'est un grand non. Mais sur la BBC, on commence à dire oui, peut-être que oui, du bout des lèvres oui, mais presque oui. Le concept est né là-bas en fait il y a 15 ans. Or, d'après les toutes premières fuites à la rentrée là, dans les médias, il semblerait bien que la chaîne ne soit pas hostile à faire danser deux hommes ensemble cette saison, voire deux femmes. On dit quoi? Bienvenue en 2019.
Et on dit surtout bonjour le Kenya.
Et plus précisément le comté de Bomé, une région reculée à l'ouest du pays. C'est là que Jacqueline va à l'école. Elle a 14 ans, elle est sage, discrète, plutôt bonne élève. Pas du genre à attirer l'attention, sauf que ce jour-là, elle a du sang sur son uniforme. Ses premières règles, elle ne savait pas. Tout le monde la regarde, tout le monde le voit. Et même la prof la monte du doigt, elle l'insulte, elle l'humilie, lui dit « t'es sale, rentre chez toi ». Comme elle est sage, qu'elle est discrète, évidemment, elle obéit, reprend le chemin de la maison, raconte l'accident à sa mère et puis elle part vers la rivière. Elle dit qu'elle va chercher de l'eau. On la retrouve un peu plus tard. Jacqueline s'est pendue à un arbre. Ses parents ne décolèrent pas, demandent des comptes à l'État, avec eux un groupe de familles qui veulent rappeler à la loi. Depuis 2 ans au Kenya, un cours d'éducation sexuelle est censé être dispensé dans les collèges, dans les lycées. L'idée, c'est de prévenir, d'informer, dans la foulée, de distribuer des protections périodiques. Justement pour éviter ce genre d'humiliation publique, ça c'est le texte, ça c'est la loi. La réalité au Kenya, c'est que les filles sont privées d'école et à chaque fois qu'elles sont réglées, ouais, ça fait une fois par mois et c'est beaucoup à l'arrivée. On dit quoi? Discriminer?
On dit que ça s'appelle une fausse bonne idée en revanche.
Elle a germé dans l'esprit d'une certaine Madison Campbell dans son appartement de Brooklyn avec une copine. Elle vient de mettre au point ce qu'elle appelle un kit MeToo et qu'elle s'apprête à commercialiser. Des cotons-tiges, des éprouvettes et hop là, voilà de quoi recueillir chez soi, sur soi, des éléments de preuve post-agression sexuelle. C'est un peu du do-it-yourself version médico-légale, hein, vous voyez. Tout part, comme souvent, d'une très bonne intention et d'une expérience, pour le coup, un peu assez douloureuse. Elle-même victime d'agression, Madison Campbell se souvient très bien qu'elle ne supportait plus le moindre contact physique et pas même d'un médecin. Nombreuses sont les victimes qui le craignent aussi et leur dépôt de plainte en est largement compliqué. Certes, sauf qu'à l'arrivée, le kit MeToo risque de n'avoir aucune valeur juridique. Le prélèvement de preuves nécessite un matériel spécifique, un savoir, des gestes techniques, c'est un truc de pro quoi. Si tant est que les pros sachent vraiment le faire et aux États-Unis comme chez nous en France, c'est encore loin d'être toujours le cas. Les partisans de ce kit MeToo l'ont martelé. Tant que vous ne débloquerez pas les fonds nécessaires pour former les professionnels à recueillir nos plaintes, au moins ce kit a le mérite d'exister. Pas faux. Alors on dit quoi? Eh ben on dit il y a du boulot.
Et on dit qu'elle s'appelle Julia Foy, c'est qu'elle sera sur Inter à 20h vendredi et sinon ici la semaine prochaine comme d'habitude.
Mais oui!
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, l'Algérie et la Tunisie sont toutes les deux engagées dans un processus électoral. En Algérie, la présidentielle vient, c'était avant-hier, d'être fixée au 12 décembre. En Tunisie, on connaît depuis cet après-midi le résultat du premier tour officiel et là aussi de la présidentielle. Donc avec qualification surprise de deux outsiders, mais la comparaison s'arrête là. L'Algérie, c'est le monde à l'envers de la Tunisie, au fond.
Oui, alors, il y a d'un côté un processus transparent et de l'autre un match truqué. Et c'est vrai que le contraste entre les deux pays voisins est saisissant. La Tunisie, une nouvelle fois, vit un moment électoral assez exemplaire, sans heurts ni contestations majeures jusqu'à présent. Les résultats du scrutin plaisent ou ne plaisent pas, mais le vote est libre et tout laisse espérer un second tour dans le calme, sans doute début octobre, en même temps que les législatives. En Algérie, c'est l'inverse. Le scrutin annoncé est un miroir aux alouettes. À première vue, on peut être tenté de se dire, ah, une l'élection présidentielle, c'est bien, il est temps de trouver enfin un successeur à Bouteflika. Mais dans les faits, on est en plein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans l'illustration du célèbre slogan de mai 68, élection piège à con. Le processus électoral n'est rien d'autre qu'un pilotage automatique géré par l'état-major de l'armée. Le général Gaïd Salah, qui contrôle désormais tous les leviers du pouvoir, a fixé lui-même la date, 12 décembre, et le président par intérim Ben Salah, qui compte pour du beurre, a obtempéré en créant à la va-vite une instance de préparation des élections, instance prétendument indépendante, petite, qui a aucune personnalité de l'opposition dans cette instance. Le tout est emballé dans ce jargon, vous savez, lunaire qui est propre aux régimes autoritaires, je cite, « Le peuple se déplacera massivement, l'horizon est prometteur, les réfractaires sont une horde égarée », on dirait du Kim Jong-un dans le texte de la poésie. Bref, c'est une élection montée à la hussarde, l'objectif est tout sauf démocratique.
Encore faut-il qu'il y ait des candidats?
Eh bien oui, absolument. Et là encore, il y a un contraste flagrant entre les deux pays. En Tunisie, il y avait 26 candidats sur la ligne de départ. On peut y voir, bien sûr, une fragmentation excessive du paysage politique. Le moins qu'on puisse dire, c'est quand même que l'offre est variée. Et les deux qualifiés pour le second tour sont deux candidats iconoclastes, n'appartenant à aucun des grands partis. L'universitaire Kais Saied, 18% des voix. L'homme d'affaires Nabil Karoui, 15% des voix. Conclusion, le paysage politique, en tout cas, n'est pas figé. Il se renouvelle. En Algérie, là encore, c'est l'inverse. On baigne dans le formol. Et l'objectif de l'armée, avec cette élection du 12 décembre, c'est précisément de conserver le formol, ne pas laisser le temps aux oppositions de se structurer pendant une période de transition, récupérer au plus vite une légitimité des urnes pour conserver le pouvoir. Ces derniers mois, le général Salah a verrouillé l'affaire, il a changé plusieurs hauts gradés, puis il a fait la tournée des popotes pour s'assurer de leur fidélité. Et dans le même temps, l'armée a pris le contrôle des principaux leviers économiques en écartant les milieux d'affaires. L'état-major fait donc semblant d'ignorer que la rue algérienne, depuis 7 mois, veut changer tout le système, pas juste un ou deux hommes. Et pour cause, c'est l'armée désormais le rouage principal du système. Alors pour sauver les apparences, il faut juste s'assurer en effet de la présence de plusieurs candidats pour un semblant de démocratie. Et ça, effectivement, c'est pas gagné. Le scrutin a déjà été reporté 2 fois, faute de candidats en lice.
Et la rue algérienne ne peut pas finir par l'emporter.
Alors, pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. Contraste toujours avec la Tunisie, où la rue peut s'exprimer, même si tout n'est pas parfait. À l'inverse, en Algérie, depuis quelques jours, la répression est en marche. Plusieurs figures de la contestation ont été arrêtées. Aujourd'hui même, Samir Ben Larbi, jeudi dernier, Karim Tabou. Il risque 10 ans de prison. Et vous savez quel est le motif? Démoralisation de l'armée. Ça ne s'invente pas. Cet après-midi encore à Alger, des dizaines de manifestants ont été interpellés. Certains lieux de rassemblement, comme la place de la Grande Poste, sont désormais inaccessibles. Les réunions d'ONG sont régulièrement interdites. Les rares médias indépendants comme TSA visés par des coupures numériques. En face, la société civile persiste. 7 mois après, les défilés continuent. Aujourd'hui encore à Alger, Oran, Constantine, Béjaïa, Tizi Ouzou. La situation économique se dégrade, le géant pétrolier Sonatrach est fébrile. Beaucoup d'ingrédients rendent la situation explosive, de nombreux diplomates sont inquiets. La rue algérienne, elle a fait preuve jusqu'à présent d'une maturité exceptionnelle pour éviter les affrontements, parce qu'ils constitueraient autant d'alibis pour déclencher une répression féroce en retour. Tout ça tient, mais jusqu'à quand?
Jean-Marc Fourré, Le Monde à l'envers, merci beaucoup Jean-Marc, et à demain, le journal de 19h, c'est juste après ça.